Chapitre 9. Les deux peurs. Dans le chapitre 7, nous avons évoqué les deux mythes qui nous conduisent droit dans le piège du manque de sommeil et nous y maintiennent enfermés. 1. Le mythe selon lequel boire, fumer, manger des cochonneries, jouer aux jeux d'argent, brûler la chandelle par les deux bouts, procurerait du plaisir ou serait des béquilles efficaces. 2. Le mythe selon lequel arrêter serait difficile et nous rendrait misérables. Nous avons montré que la clé pour mettre un terme aux troubles du sommeil était de changer nos habitudes en matière d'alimentation, de consommation d'alcool, de drogue, mais aussi de mode de vie. Dans un petit coin de votre tête, vous vous dites peut-être que ce ne sera pas une expérience agréable. C'est parfaitement normal. On fait ses choix dans l'espoir de trouver le bonheur. Personne ne fume, par exemple, pour avoir un cancer du poumon, une maladie cardiaque, un emphysème ou toute autre maladie provoquée par le tabagisme et qui raccourcit l'espérance de vie. Sans même parler du gouffre financier que fumer représente, ni de la mauvaise odeur que cela laisse sur les habits, de la perte du goût qui en découle et de la vie de servitude dans laquelle on s'engage. On se met à fumer parce que nous avons eu l'idée que c'était une activité agréable, relaxante, amusante, élégante, déstressante, etc. En d'autres termes, que c'était une promesse de plaisir ou de soutien émotionnel. Pour arrêter, il ne suffit pas de remplacer les cigarettes par un substitut, comme des patchs ou des gommes à la nicotine. Il faut déconstruire les lavages de cerveau que l'on a subis et ce mythe du plaisir. Il en va de même pour tous les choix de vie susceptibles de perturber le sommeil, comme une mauvaise alimentation, l'alcool ou les drogues, même ceux dont on n'a pas l'impression d'être dépendant. Il faut comprendre qu'il n'apporte rien pour ne plus avoir l'impression de faire un sacrifice quand on décide d'arrêter. Ainsi, on pourra mettre un terme au deuxième mythe, celui qui prétend que changer de mode de vie ou arrêter de consommer certains aliments, alcool ou drogue, serait difficile et rendrait malheureux. Si vous êtes persuadé que ces choix sont source de plaisir, d'avantages et de bonheur, c'est évident que vous vous sentirez privé et que la tentation d'y revenir ne vous quittera jamais. Vous vous souvenez du grand monstre? En appliquant cette méthode, il est inutile de faire preuve de volonté pour résister à la tentation. On supprime tout bonnement et simplement la tentation. Examinons de plus près ce deuxième mythe. La peur de l'échec. Pourquoi croit-on qu'il est difficile de modifier ses habitudes? Il y a deux principales raisons à cela. Il a pu nous arriver d'essayer par le passé et d'échouer. Et puis, on nous répète sans cesse que ce sera difficile. Le monde est rempli de gens qui promettent d'arrêter de fumer, de réduire leur consommation d'alcool, de manger moins, etc. Ne trouvez-vous pas, pour le moins étrange, que toutes ces choses soient considérées comme des plaisirs alors que nous prenons en permanence la résolution de les arrêter? Imaginons que vous ayez un véritable plaisir dans la vie, comme jouer au tennis. Vous n'iriez jamais dire aux gens autour de vous que vous essayez de réduire le temps que vous consacrez à ce sport. Vous voudriez au contraire jouer le plus souvent possible. C'est la preuve évidente que ces soi-disant plaisirs n'en sont pas. Où que l'on regarde, on tombe sur quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer, de respecter le Dry January, d'éliminer les glucides de son alimentation, etc. Et tous le font clairement savoir. La dépendance est comme un étau qui se resserre. Ceux qui ont essayé d'arrêter de fumer savent que l'on se sent encore plus pris au piège quand on échoue. Avez-vous déjà vu un film dans lequel un personnage est jeté au fond d'une pièce barricadée? Quand on verrouille la porte derrière lui, son premier réflexe est de courir vers la poignée et de tirer dessus de toutes ses forces. Cela ne fait que rendre sa situation plus criante. Il est enfermé. Quand on essaie d'arrêter de fumer et que l'on échoue, cela a le même effet. On en sort encore plus convaincu d'être pris dans un piège dont on ne peut pas s'échapper. Cette expérience peut être paralysante. Alors que vous vous disiez que vous arrêteriez un jour, mais que vous n'avez pas envie de le faire tout de suite, vous êtes maintenant confronté à la triste réalité. Vous ne pouvez plus vous faire d'illusions. De nombreux toxicomanes ont conclu que la meilleure façon d'échapper à ce triste constat est de ne pas essayer d'arrêter du tout. Tant que vous n'avez pas tenté de vous échapper, vous pouvez toujours prétendre qu'une évasion est possible. Ce n'est que lorsque vous échouez que vous êtes obligé d'admettre le contraire. C'est la logique tordue de l'addiction. Vous comprenez maintenant à quel point elle vous pousse droit dans le mur. Pourtant, des millions de personnes intelligentes continuent à se bercer d'illusions. Elles préfèrent subir les souffrances liées à la dépendance que de risquer celles d'un échec. Ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que la porte ne reste fermée que tant qu'elles utilisent la mauvaise clé pour l'ouvrir. Quand, par peur, on fuit l'échec, on est sûr d'échouer. C'est comme vouloir être champion de tennis sans jamais disputer de match de peur de perdre. Les chances de réussir sont nulles. Dans le cas de la dépendance, ce dont on a peur, c'est de rester dépendant. Mais vous êtes déjà dépendant. Vous craignez donc quelque chose qui a déjà eu lieu. Si vous continuez à ne pas essayer d'arrêter, vous vous sentirez en échec pour le reste de votre vie. La peur de l'échec peut aussi être un moteur. Les champions de tennis qui prennent le risque de jouer des matchs en témoigneraient. Elle affûte la concentration, pousse à s'entraîner sans relâche et est une source inépuisable d'énergie. Que vous soyez un aspirant tennisman ou que vous souhaitiez améliorer votre régime alimentaire, c'est la même chose. Lorsqu'elle est canalisée de façon positive, la peur de l'échec peut optimiser vos facultés. En modifiant votre consommation de junk food, d'alcool, de médicaments et votre mode de vie en général, vous vous donnez une chance de résoudre vos troubles du sommeil. En utilisant cette méthode, vous vous donnez la meilleure chance d'y parvenir durablement. Et en suivant toutes les instructions qu'elle contient dans l'ordre du début à la fin, vous ne pouvez pas échouer. La peur du succès. Pourquoi croyons-nous que changer des habitudes, qui perturbent pourtant le sommeil, serait douloureux? Ne plus se sentir pris au piège devrait pourtant nous apparaître comme un merveilleux soulagement. Mais la dépendance fonctionne d'une manière si tordue que lorsque l'on est pris au piège, on ne le voit pas. On imagine qu'il doit être terrible d'être enfermé en prison. Et on a du mal à comprendre pourquoi quelqu'un qui en a fait l'expérience prendrait le risque d'y retourner. Pourtant, de nombreux anciens prisonniers récidivent. Ce phénomène est d'une déprimante régularité, surtout chez ceux qui ont passé beaucoup de temps derrière les barreaux. On pourrait croire que c'est qu'ils n'ont pas appris de leurs erreurs, mais en réalité, c'est souvent qu'ils veulent retourner en prison. La sécurité qu'ils y ont trouvée leur manque. La vie dehors leur est devenue étrangère, si ce n'est effrayante. Elle n'obéit pas aux mêmes routines ni aux mêmes règles. Ils sont confrontés à un monde qu'ils ne connaissent plus et ne se sentent pas équipés pour y faire face. Lorsque vous croyez que vos petites habitudes vous procurent du plaisir ou vous servent de béquille, l'idée de vous en passer est tout aussi effrayante. Vous ne savez pas comment vous débrouiller sans, vous êtes convaincu que vous allez devoir en passer par une période de transition particulièrement inconfortable. Et si vous réussissez à changer, vous vous croyez condamné à une vie de sacrifice et de privation. En résumé, vous craignez de ne plus pouvoir profiter de la vie. Face à une telle crainte, tout le monde serait découragé. Qui veut cesser de profiter de la vie? Mais cette peur est-elle rationnelle? S'agit-il d'une véritable peur ou d'une simple illusion? N'est-ce pas là aussi le fruit des lavages de cerveau que l'on subit? La double peine. La peur du succès est bien plus puissante que la peur de l'échec quand on envisage de changer ses habitudes alimentaires ou son mode de vie. Il est impossible de prendre une décision qui rendra la vie moins agréable. Si vous avez déjà essayé de modifier certaines de vos habitudes alimentaires ou votre mode de vie par le passé, il est probable que vous l'ayez fait avec une certaine réticence. Peut-être vous êtes-vous dit que vous priver de certaines choses serait moins pire que de manquer de sommeil. Même si vous avez réussi à vous y contraindre pendant un certain temps, il est probable que vos anciennes habitudes aient fini par reprendre le dessus et que vos troubles du sommeil aient repris de plus belle. C'est une lutte acharnée. D'un côté, la peur de se sentir en permanence fatigué et léthargique, de ne pas trouver le sommeil, et de l'autre, celle de devoir vivre une vie de privation. Aux deux extrémités de ce combat, on retrouve la peur. Ces deux peurs ont pourtant une seule et même cause, les mauvaises habitudes à l'origine des troubles du sommeil. On pense que pour se libérer, on doit faire d'énormes sacrifices dans notre régime alimentaire et nos modes de vie. Il ne nous vient jamais à l'esprit que rien de cela ne nous apporte de plaisir, d'amusement, de soutien émotionnel, ni aucun autre bienfait. En réalité, cela nous tire vers le bas. C'est pourquoi il est si important de comprendre la différence entre le vrai plaisir et l'illusion du plaisir. La peur est à l'origine de toutes les addictions et de tous les troubles du comportement. C'est elle qui rend le piège si ingénieux. Elle nous fait croire que notre pire ennemi est notre meilleur ami. Ce qui devrait nous aider à nous sentir en sécurité est en réalité ce qui nous rend si vulnérables. Lorsque vous vous réveillez, épuisé après une nouvelle nuit en pointillé, le grand monstre vous souffle à l'oreille que vous avez besoin d'une bonne tasse de café. Pourtant, vous savez que la caféine est l'ennemi numéro un du sommeil. Il est évident que pour briser cette malédiction, vous devez arrêter de boire du café. Inutile de vous morfondre. Tout ce que le café fait pour vous est de prolonger le cercle vicieux des nuits trop courtes. Le café ne procure aucune véritable euphorie. Le plaisir que vous pensez ressentir n'est que le soulagement temporaire du manque provoqué par la dernière tasse que vous avez bue, dont la caféine vient de quitter votre système. Le mécanisme est particulièrement pernicieux. Après avoir pris une tasse, vous ressentez un soulagement éphémère. Vous vous sentez donc mieux qu'une minute plus tôt. Vous êtes ainsi convaincu que le café vous a donné un coup de fouet. Mais c'est la même chose que ce que l'on ressent lorsqu'on enlève une paire de chaussures trop serrées à la fin d'une longue journée. Porteriez-vous délibérément des chaussures trop petites pour ce bref instant de soulagement? Considéreriez-vous ces chaussures comme une source de plaisir dont vous ne pourriez pas vous passer? Chaque fois que vous ressentez les effets de ce stimulant illusoire, le grand monstre grandit en vous. Vous croyez plus encore aux bénéfices de ce breuvage et êtes persuadé que vous serez malheureux, vulnérable et abandonné sans lui. Tant que vous continuerez à croire que ces habitudes vous procurent du plaisir ou vous servent de béquille, vous serez tiraillé par la peur et il vous sera quasiment impossible de changer. Mais il existe un moyen facile de gagner ce combat contre la peur. Arrêtez, tout simplement. La caféine en est un bon exemple. Il ne fait aucun doute que boire trop de café nuit au sommeil, ce qui crée de la tristesse et de la peur. On vous a fait croire que la caféine avait des effets positifs. C'est un leurre. De ce fait, vous êtes persuadé qu'une vie sans elle serait une vie déprimante. Quand on comprend qu'elle ne cause que des difficultés, la peur de vivre sans elle disparaît d'elle-même, tout comme l'envie d'en consommer. Ne plus douter. Nous avons l'habitude de dresser des plans d'action. Mais pourquoi ne pas opter pour une fois pour un plan d'inaction? On peut lister les choses que l'on envisage de supprimer de son emploi du temps, ou du moins réduire, reprogrammer, modifier. Visualisez les habitudes que vous avez prises en matière d'alimentation ou de mode de vie. Que devriez-vous revoir pour mettre un terme à vos troubles du sommeil? Notez-le. Vous savez probablement déjà très bien ce que vous devriez changer, mais le mettre par écrit vous sera d'un grand soutien. Vous pourrez compléter la liste au fur et à mesure de votre lecture. Il vous sera ainsi plus simple de déterminer pour chaque objectif A. si vous avez besoin d'aide pour l'atteindre, B. si vous êtes sûr d'y arriver sans vous sacrifier. Voici quelques questions qui devraient vous permettre d'établir cette liste facilement. Ne vous laissez pas décourager par le nombre de problèmes soulevés. Pas d'inquiétude. Seuls certains d'entre eux vous concernent a priori. Voyez plutôt cet exercice comme une manière d'explorer vos habitudes, votre alimentation, votre consommation de drogue et d'alcool, et il deviendra passionnant. Et j'aimerais que vous écoutiez attentivement ces paroles, que vous en assimiliez chaque mot, que vous vous arrêtiez sur chaque question, même si cela vous semble parfois répétitif. 1. Buvez-vous du café ou des boissons qui contiennent de la caféine? Comprenez-vous pourquoi, sur le long terme, le recours aux excitants amplifie la fatigue au lieu de la soulager? Êtes-vous conscient que consommer de la caféine à tout moment de la journée peut être à l'origine de vos troubles du sommeil? Devriez-vous vous sentir heureux ou triste à l'idée de pouvoir choisir d'être ou de ne pas être un buveur de caféine? Pourquoi changer ne vous rendrait-il pas heureux? Vous devriez trouver cela d'autant plus facile que vous n'éprouverez aucun manque, que vous vous sentirez en pleine forme et que vous multiplierez vos chances de passer des nuits réparatrices. 2. Votre régime alimentaire est-il riche en glucides transformés et en féculents, pain, pizza, pâtes, riz, pommes de terre, etc. Comprenez-vous que ces produits jouent sur le taux de sucre dans le sang? Cela se traduit par des niveaux d'énergie, de fatigue et d'humeur en dents de scie. Comprenez-vous que, contrairement aux variations extrêmes que provoque la consommation de féculents et de glucides transformés, un taux de glycémie constant favorise le sommeil et lui permet d'être plus réparateur? Devriez-vous vous sentir heureux ou triste à l'idée de pouvoir décider d'abandonner un régime alimentaire qui vous fait du tort? Pourquoi changer ne vous rendrait-il pas heureux? Vous devriez trouver cela d'autant plus facile que vous vous sentirez en pleine forme et que vous multiplierez vos chances de passer des nuits réparatrices. 3. Consommez-vous quotidiennement des produits à base de sucre raffiné, sucreries, chocolat, desserts et autres encas sucrés? Comprenez-vous que ces produits jouent sur le taux de sucre dans le sang? Cela se traduit par des niveaux d'énergie, de fatigue et d'humeur en dents de scie. Comprenez-vous que, contrairement aux variations extrêmes que provoque la consommation de sucre raffiné, un taux de glycémie constant favorise le sommeil et lui permet d'être plus réparateur? Devriez-vous vous sentir heureux ou triste à l'idée de pouvoir décider d'abandonner un régime alimentaire qui vous fait du tort? Pourquoi changer ne vous rendrait-il pas heureux? Vous devriez trouver cela d'autant plus facile que vous n'éprouverez aucun manque, que vous vous sentirez en pleine forme et que vous multiplierez vos chances de passer des nuits réparatrices. 4. Consommez-vous des préparations à base de fruits? Cela inclut les jus de fruits, les smoothies, les fruits secs. Comprenez-vous que ces produits jouent sur le taux de sucre dans le sang? Cela se traduit par des niveaux d'énergie, de fatigue et d'humeur en dents de scie. Comprenez-vous que, contrairement aux variations extrêmes que provoque la consommation de fruits transformés, un taux de glycémie constant favorise le sommeil et lui permet d'être plus réparateur? Devriez-vous vous sentir heureux ou triste à l'idée de pouvoir décider d'abandonner un régime alimentaire qui vous fait du tort? Pourquoi changer ne vous rendrait-il pas heureux? Vous devriez trouver cela d'autant plus facile que vous vous sentirez en pleine forme et que vous multiplierez vos chances de passer des nuits réparatrices. 5. À quelle heure prenez-vous votre repas le soir? Saviez-vous que dîner tard augmentait les chances de prendre du poids et de mal dormir? C'est encore pire quand le repas du soir inclut de la caféine, des produits raffinés, de l'alcool, du tabac, du sucre, des glucides transformés, des féculents, des préparations à base de fruits ou des encas salés comme sucrés. Comprenez-vous que lorsque l'on dîne tard, a fortiori lorsque l'on consomme les aliments énoncés ci-dessus, cela donne au corps une énergie dont il n'a pas besoin à cette heure-là. Comprenez-vous que cette habitude joue sur le taux de sucre dans le sang? Cela se traduit par des niveaux d'énergie, de fatigue et d'humeur en dents de scie. Devriez-vous vous sentir heureux ou triste à l'idée de ne plus prendre vos repas du soir trop tard et peut-être aussi d'éviter certains aliments à ces heures-là, quand vous savez que cela vous fait du tort? Pourquoi changer ne vous rendrait-il pas heureux? Vous devriez trouver cela d'autant plus facile que cette habitude ne vous manquera pas, que vous vous sentirez en pleine forme et que vous multiplierez vos chances de passer des nuits réparatrices. 6. Faites-vous un peu d'exercice chaque jour. Savez-vous qu'une activité physique régulière augmente les chances de bien dormir? C'est particulièrement bénéfique pour les phases profondes du sommeil pendant lesquelles le cerveau et le corps se régénèrent. L'exercice améliore l'humeur, ce qui favorise également le sommeil. Inutile de courir des kilomètres ou de passer des heures à la salle de sport. Une pratique modérée suffit pour améliorer le sommeil. Une petite promenade de 30 minutes peut faire toute la différence. Comprenez-vous que, sans faire d'exercice à proprement parler, le simple fait d'introduire une promenade de 30 minutes dans votre routine quotidienne peut vous aider à dormir et à améliorer votre humeur. Devriez-vous vous sentir heureux ou triste à l'idée de faire un peu d'exercice chaque jour quand vous savez que c'est bon pour votre santé et que cela pourrait régler vos troubles du sommeil? Pourquoi changer ne vous rendrait-il pas heureux? D'autant plus que vous devriez trouver cela facile, agréable et bénéfique à bien des égards. Non seulement vous vous sentirez en pleine forme, mais en plus vous multiplierez vos chances de passer des nuits réparatrices. 7. Avez-vous l'habitude de faire des efforts physiques intenses en fin de soirée? Une pratique sportive régulière est essentielle pour l'esprit, le corps et le sommeil. Mais faire de l'exercice trop tard peut causer des problèmes. Quand on repousse son repas du soir pour faire une séance de sport, on dîne souvent tard, ce qui n'est pas idéal. Fournir un effort intense libère des endorphines qui stimulent l'activité cérébrale et cela peut retarder l'endormissement. Comprenez-vous que, si vous voulez faire de l'exercice le soir, mieux vaut le faire le plus tôt possible? Devriez-vous vous sentir heureux ou triste à l'idée d'éviter de faire de l'exercice ou de dîner trop tard le soir, quand vous savez que ces deux facteurs combinés sont sans doute à l'origine de vos troubles du sommeil? Pourquoi changer ne vous rendrait-il pas heureux? D'autant plus que vous devriez trouver cela facile, agréable et bénéfique à bien des égards. Non seulement vous vous sentirez encore plus en forme, mais en plus vous multiplierez vos chances de passer des nuits réparatrices. 8. Vous regardez la télévision ou des vidéos sur votre téléphone, sur votre tablette ou votre ordinateur portable avant d'aller vous coucher? Saviez-vous que cela pouvait gravement perturber votre sommeil? Bien sûr que vous le saviez, mais avez-vous fait quelque chose pour y remédier? Peut-être vous en êtes-vous préoccupé pendant un certain temps. Peut-être avez-vous même tenté d'y mettre un terme, mais comme cela semblait ne faire aucune différence ou que ça vous a paru trop difficile pour vous y tenir sur le long terme, vous avez abandonné. Qui a envie de se passer des écrans? Personne. Nous sommes nombreux à aimer nous détendre en regardant des films, des feuilletons, des séries, des documentaires, des compétitions sportives, des clips, etc. Même si nous trouvons cela relaxant, la lumière bleue émise par les appareils réduit considérablement les chances de passer une bonne nuit. Le cerveau croit qu'il fait jour et cela empêche l'organisme de produire de la mélatonine. Prendre des gommes de mélatonine n'est pas une solution. Changer de comportement, oui. Plus tôt vous vous déconnectez, mieux c'est. L'idéal serait d'éteindre toutes vos machines ou de les passer en mode nuit une heure avant de vous coucher. Ces fonctions sont disponibles sur la plupart des appareils modernes. Il existe aussi des filtres qui bloquent la lumière bleue et même des verres de lunettes. Comprenez-vous qu'éteindre les appareils qui émettent de la lumière bleue une heure avant d'aller au lit et ou les passer en mode nuit, utiliser des filtres ou des lunettes adaptées, améliorera votre rituel du coucher et vous aidera à mieux dormir? Devriez-vous vous sentir heureux ou triste à l'idée de pouvoir choisir d'éteindre plutôt les appareils qui émettent de la lumière bleue, de les passer en mode nuit, d'utiliser des filtres ou des lunettes adaptées quand vous savez que cela a sans doute un impact sur votre sommeil? Pourquoi changer ne vous rendrait-il pas heureux? D'autant plus que vous devriez trouver cela facile, agréable et bénéfique à bien des égards. Non seulement vous vous sentirez encore plus en forme, mais en plus, vous multiplierez vos chances de passer des nuits réparatrices.